Il est des histoires, comment dire, comment trouver le mot juste, sidérantes, étonnantes, stupéfiantes, incroyables, monstrueuses, des histoires qui ne devraient pas exister, des histoires qui ne sont pas le fait des romanciers, mais des histoires vraies, et le réel est parfois criminel. Comment dire le mot ? Il est simple et terrible, c'est l'histoire d'une lapidation. Une femme accusée d'adultère est tuée en public par la Société des Hommes. Sujet terrible qui est celui de la complainte des oiseaux, le nouveau roman de Sayouba Traoré. Bonjour Sayouba.
Bonjour Pascal.
Alors vous n'êtes pas tout à fait un inconnu, ni pour moi, ni pour les auditeurs, car on a entendu votre voix sur RFI pendant des années avec Le Coq Chante. Donc journaliste et écrivain, est-ce que cela fait deux vies différentes ?
Pas si différente que ça, parce que le journaliste transparaît dans l'écrivain. Et quand j'écris les papiers de mes émissions ou de mes articles, l'écrivain transparaît.
Français et burkinabé aussi.
Exact.
Et ça, c'est deux vies et c'est un même bonhomme.
Moi, j'ai dit qu'en fait, c'est difficile de dire à un moment donné qui on est, parce que moi, je suis né dans un village. La ville m'a happé parce qu'il fallait y aller pour les études. Et puis, je me suis retrouvé en Europe. On venait pour étudier, pour retourner être fonctionnaire. L'histoire personnelle, l'histoire politique de nos différents pays en a décidé autrement. J'ai des enfants qui sont nés en France. Mon épouse étant nigérienne, vu la loi de ce pays, épouser une nigérienne, je suis de fait un Nigérien. Et le Burkina Faso a des frontières avec 6 pays. Ça fait que ma famille nucléaire et ma famille, le clan est éclaté dans ces 6 pays-là. Mon métier m'a amené, j'ai calculé ce que j'ai fait pendant toutes ces années, et pas moins de 57 pays quand même. Donc, bon, c'est difficile. Il y a des moments où je regarde quelque chose dans ma collection personnelle, dans ma maison.
C'est le monde.
Et je ne vois pas où, je me rappelle plus où je l'ai acheté.
Alors en tout cas, dans les deux cas, quelle que soit votre vie, vous aimez les bêtes à plumes. Le coq chante, la complainte des oiseaux. Est-ce que c'est un hasard ou c'est une fascination justement pour ces oiseaux, pour ces êtres qui volent ?
Ah, moi, j'ai toujours été fasciné par les oiseaux parce que quand on sait les regarder, les voyages, l'absence d'une espèce d'oiseau signifie quelque chose. Leur retour signifie quelque chose. Ça rythme la vie des hommes. Quand on sait observer les oiseaux, on voit le rythme des saisons, on voit comment les choses se passent. Et en fait, voir suivre la vie des oiseaux, c'est vivre l'écosystème. Par exemple, la saison pluvieuse s'arrête. Bon, il y a encore des flaques d'eau, il y a encore des moustiques. Et puis après, on voit les insectes qui s'enterrent et les oiseaux qui s'en vont, puisqu'il y a des qui mangent les insectes. Et les granivores arrivent parce que c'est la période de la récolte.
Donc nature dit le temps.
Ah, la nature dit le temps. Et la nature, moi je dis que c'est une maîtresse fidèle. Il faut savoir la comprendre, la contempler et surtout lui dire qu'elle est belle.
Alors dans ce roman, La complainte des oiseaux, les oiseaux sont là, la nature est là et est bien là, mais c'est d'abord l'histoire d'une lapidation. Et quand je dis ça, j'ai l'impression que je parle d'un autre temps. Or, c'est une histoire contemporaine. Ce roman se passe aujourd'hui.
Ah ben oui, des lapidations, il y en a aujourd'hui.
Mais où ? Au Burkina, non ?
Non, au Burkina, non, parce qu'aucune des 63 ethnies du Burkina Faso ne pratique cela. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres formes de punition. Par exemple, il y a le bannissement. On peut vous chasser du village. Il y a des endroits où l'homme ne peut pas vivre tout seul. Il y a une forme d'ostracisme déguisé où on ne marie plus ces gens. C'est une forme de punition. C'est plus soft, mais c'est sur le long terme. Ça fait plus mal plus longtemps.
Mais en même temps, la lapidation, pour reprendre votre adjectif, c'est hard. Et vous le décrivez dans le roman, il y a une scène au tout début du roman qui est absolument terrible, parce qu'on voit chacune des pierres qui tombent sur le corps de la femme. Pourquoi avoir été jusqu'à cette extrémité? Pourquoi vous, écrivain franco-burkinabé, voulez écrire sur la lapidation et la fée?
Je veux vous dire, j'ai écrit ce roman et pendant longtemps j'ai hésité à raconter la scène. Pendant longtemps, par une forme de lâcheté. Je sais pas. Je voulais pas revenir sur ce que j'avais vu. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, va falloir y aller.
Parce que vous avez vu une scène similaire.
Et c'est ça qui a déclenché ce roman.
Récemment?
Si vous lisez le roman, le pays n'est pas cité. Les personnages ne sont que des prénoms. Les villes ne sont pas nommées. Parce que c'est quasiment dans beaucoup de pays que ça se passe. Et si vous avez lu le dos du livre, c'est pas une histoire d'air culturel, de zone religieuse ou d'influence religieuse. J'ai fait cette citation quand Jésus disait que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il s'agissait de lapidation. Donc le monde chrétien a eu sa part aussi.
Mais vous avez vu une scène?
Ah, j'ai vu la scène, oui.
Et ça vous a choqué?
Je pense que le jour que j'ai vu ça, j'ai dû annuler tous mes rendez-vous parce que on n'en sort pas indemne. C'est pas possible autrement, c'est indescriptible. Et je savais que je l'avais au fond de moi. Je savais que c'était caché quelque part, même si je me suis appliqué inconsciemment à nier cette scène. Et je ne l'ai jamais raconté.
Et elle est revenue.
Jusqu'au jour où je me suis dit quand même, en tant qu'écrivain, il faut que tu dises quelque chose. Il faut quand même, bon, des gens vont se sentir, on n'est pas un écrivain si on ne sait pas déranger la société.
Sayouba Traoré, La complainte des oiseaux. Alors, vous nous lirez un extrait de votre roman. On va raconter l'histoire d'Omar, puisqu'en fait, le roman raconte la lapidation, mais raconte aussi l'itinéraire du fils de cette femme lapidée. Il est raconté de son point de vue. Mais comme tous les lundis, on fait un pas de deux, ici et ailleurs. C'est le coup de fil hebdomadaire. Ailleurs, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec Céline Desbos, la directrice du pôle français à l'Institut d'Abidjan. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Le 24 novembre, pour la journée du prof de français, vous avez organisé une rencontre sur le plurilinguisme, sujet tout à fait d'actualité, car la Côte d'Ivoire n'a qu'une langue officielle, le français, mais cela ne dit pas la réalité linguistique du pays.
Effectivement, la Côte d'Ivoire a une seule langue officielle qui est le français. Le français donc académique, mais qui se parle aussi de différentes façons. Donc on va parler de variété de français et il y a également 60 langues qui cohabitent, réparties en 4 grands groupes principaux, ce qui crée un vrai bouillon linguistique et bien entendu derrière un vrai bouillon de culture.
Quand vous dites cohabitation, ça veut dire quoi? Qu'on parle plusieurs langues en même temps?
Ça veut dire que les langues s'influencent les unes par rapport aux autres. Alors, les mêmes groupes de locuteurs vont parler une langue entre eux et lorsqu'ils vont s'adresser à d'autres, soit il va y avoir une intercompréhension, c'est-à-dire que indépendamment de la différence de langue, ils vont se comprendre. Donc effectivement, dans ce cas-là, ils vont parler plusieurs langues en même temps. Mais donc également, je reviens sur cette influence, entre autres par rapport au français, où les langues régionales vont influencer le français, ce qui va conduire à un autre français qui est aussi parlé ici en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan.
Un exemple ?
Je citerai le nouchi, qui est en fait une variété de français abouti, puisque désormais un locuteur francophone ne va peut-être pas tout comprendre en ouchi. Il s'agit d'une langue qui est née à partir du français et d'autres langues et des langues régionales, ce qui a créé une langue métissée qui est aujourd'hui parlée non seulement à Abidjan, mais aussi en Côte d'Ivoire et aussi à l'international, puisque certains mots ouchi font désormais partie du dictionnaire Larousse.
Alors cette pluralité est souvent celle de l'Afrique de l'Ouest. Comment un institut français prend en compte cela? Est-ce que cela remet en cause votre mission?
Pas du tout. On considère que le français est une langue complémentaire. Elle est langue officielle dans beaucoup de pays. Donc c'est une langue qui va servir pour des actions données et elle va s'appuyer sur les langues qui sont parlées dans le pays pour d'autres usages, pour d'autres types de communication, aussi pour une meilleure compréhension. Donc du coup, elle arrive en soutien, en support et en beau complément. Elle crée cette richesse linguistique. C'est vrai que si l'on se comprend aussi de Dakar à Abidjan, c'est parce que l'on a cette langue française en commun.
Donc l'enjeu, et ce n'est pas qu'un enjeu lexical, c'est de préférer le terme d'interculturel à celui de multiculturel.
Effectivement, multiculturel, ce serait plusieurs groupes de locuteurs, plusieurs groupes de personnes qui parleraient les unes à côté des autres une même langue. L'interculturel, c'est vraiment cette idée de créer des ponts linguistiques, ce qui permet de créer également des ponts culturels, des ponts de compréhension réciproque. Donc on est beaucoup plus dans cette dynamique. Il y a tellement de groupes de langues en Afrique de l'Ouest qu'il faut effectivement que chaque locuteur, quel qu'il soit et où qu'il soit, puisse se faire comprendre.
Donc il y a eu cette table ronde lors de la journée du prof de français, mais c'est une réflexion que vous menez au long cours et durant toute l'année, Céline Desbos.
Oui, et c'est une réflexion que l'on mène à plusieurs titres. Déjà par rapport aux langues en elles-mêmes, quelles sont les langues parlées dans la région, comment elles s'influencent et donc comment elles créent aussi ce français langue africaine. Et puis également l'impact finalement du plurilinguisme dans des activités clés, par exemple dans la transmission des savoirs, dans les salles de classe, puisque aujourd'hui le français, je dirais, académique n'est pas maîtrisé par tous et donc complexifie parfois l'accès au savoir, aux connaissances scolaires et au-delà.
Merci beaucoup Céline Desbos, donc de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Merci.
Merci à vous, très bonne journée.
Des jours à rêvasser, une douceur qui fait rêver, fort perdu dans mes pensées. Elle est la sombre joie, si présent auprès de moi, sans savoir pourquoi. Douce mélancolie, les choses de la vie, et moi chante et elle me suit comme une belle mélodie. Et je garde dans mon cœur la mémoire du bonheur, je m'éloigne de ma peur et de mes pleurs.
La tristesse sans raison, fort étrange émotion, éphémère papillon, une emprise éternelle, et qui rend la vie plus belle, telle une harmonie nouvelle. Mélancolie, une chose de la vie, elle me charme telle une belle mélodie. Retrouver les folies, à nouveau chanter la vie, puis les rêves et les sourires jour et nuit.
Douce douce mélancolie, nouveau titre de la chanteuse belge Isolde Lausen, en attente de son futur album ici avec Bertrand Burgala. Sayuba Traoré est aujourd'hui notre invitée avec son roman La Complainte des Oiseaux, qui se passe dans un coin de pays aux confins du Sahel. On n'en saura pas plus. Aucun pays n'est nommé. On n'entend pas non plus la langue qui s'y parle. Sayuba Traoré, aucune langue d'Afrique dans ce roman que du français. C'est volontaire de votre part?
Oui, parce que la difficulté qu'on a quand on écrit sur ce genre de choses, c'est comment prendre un phénomène local qui se passe dans une oasis et l'amener à l'universel. Comment raconter ça à tout le monde? Là, il se pose un problème de langue, parce que il faut la compréhension de tout le monde. Et je trouve que le français était tout indiqué pour ça, parce que comment je fais pour diffuser? Bon, déjà, moi-même, je comprends pas la langue du pays d'origine. Il m'a fallu des interprètes, déjà. Il y a des réalités qui sont très locales. Bon, votre question me fait penser au travail de correction avec la maison d'édition. La dame me disait, oui, mais vous avez dit un canari, mais un canari, c'est un oiseau. Je dis, non, madame, un canari, c'est une jarre. C'est en Europe que c'est un oiseau. Donc, il y a le français d'Afrique. Comme on vient d'entendre l'extrait chez les professeurs, là, il y a un niveau de français qui est académique. Ça, nous le parlons quand nous allons à la Sorbonne ou dans les colloques. Entre nous, il y a le français d'Afrique, qu'on se comprend. Et quand il y a un Européen qui n'a jamais fait l'Afrique, il faut lui expliquer certaines choses.
Donc le français académique.
Ah oui, parce que c'est une autre réalité qu'on décrit. Et je suis persuadé que si vous deviez parler de la Bretagne à des gens au fin fond du Bénin, il faut adapter certaines choses. Parce que vous allez parler du fromage, ils ne sauront pas. Vous allez parler de la crêpe, il faudra expliquer certaines choses. Le jambon, il faut expliquer.
Donc, avec ce français académique que vous revendiquez, Sayuba Traoré, vous nous racontez, alors non pas du tout l'Afrique, mais en tout cas un village et une culture qui est dominée par la loi du clan. Parce que si cette femme est lapidée, c'est bien parce que la loi du clan a frappé. Elle est accusée d'adultère, son sort est scellé, sans procès, et son fils va devenir un fils honteux, parce qu'on est le fils de la femme lapidée.
Oui, on peut hériter de la souillure de quelqu'un d'autre. C'est héréditaire.
Comment résister? Comment s'opposer?
Mais justement, le problème, c'est comment dire non sans lui dire. Parce qu'on est soi-même la proie du clan. On est soi-même entre les mains du clan. Comment s'opposer? Il faut des biais. Et c'est là où la ville intervient en introduisant ces nouveautés qu'il faut savoir exploiter. Parce que le clan, c'est vrai, mais si vous regardez aujourd'hui, dans presque tous les pays africains, les clans, et le clan, il existe. Bon, il y a le noyau central au village. Bon, ça, c'est le sanctuaire. Mais un clan est éclaté entre plusieurs villes pour des raisons professionnelles déjà. Et entre plusieurs pays, le clan, il existe, c'est vrai, c'est quelque chose d'informel, mais intangible qui est là, mais il est éclaté, le clan. Donc on peut exploiter, il y a des failles, il y a des interstices où on peut passer. Et c'est ce que ce jeune homme fait, pourquoi? Parce que le clan est structuré de telle sorte que quand on tue une maman, on a tué un monde.
Donc,
parce que la maman est centrale, elle est essentielle. C'est le pilier qui a tout. Et quand on a tué la maman, il faut tout est chamboulé, il faut tout reconstruire, tout imaginer de nouveau. Et ce jeune homme se retrouve pris dans ce piège-là, où il doit protéger sa sœur, alors qu'il n'en a pas le droit. Et le pouvoir d'ailleurs. Mais il faut savoir exploiter la force des vieillards, qui c'est eux qui décident, l'autorité des vieux. Il faut savoir exploiter, je ne dirais pas la malignité, mais le savoir-faire des vieilles femmes. Il faut savoir exploiter les nouveautés que l'administration coloniale, l'administration moderne introduit. Il faut savoir exploiter tout ça. Et ce jeune homme le fait parce que, disons-nous la vérité, il n'avait pas le choix.
Mais il est aussi très révolté. Parce que quand vous, vous voyez cette scène de lapidation au cours d'un reportage, vous êtes choqué. Lui, l'enfant Omar, est absolument bouleversé par cette scène à laquelle il assiste. Et il veut surtout à la fois se venger et arrêter avec le « on a toujours fait comme ça », c'est-à-dire la loi du clan, la coutume. C'est insupportable.
Oui, le problème c'est que tout le monde revendique la coutume quand ça nous arrange. Mais il se trouve qu'elle nous arrange pas toujours. Voilà. C'est bon. Je dirais, chaque pays a ses coutumes. Hein. La culture française est bâtie sur des coutumes. Quand ça arrange, on est d'accord. Quand ça n'arrange pas, ça peut donner lieu à des émeutes. Hein. Mais ça, c'est quand on est en groupe et que c'est puissant. Mais quand on est un individu isolé, quelque part dans une oasis, et qu'il faut quand même se battre, parce qu'on mesure sa faiblesse très très rapidement, on fait l'état des lieux, on se rend compte qu'on est tout seul, et qu'il faut quand même faire quelque chose.
Donc la force de ce personnage que vous inventez, Sayouba Traoré, cet enfant, ce jeune homme, Omar, c'est de parler avec les animaux, de comprendre les oiseaux, de pouvoir s'adresser aux vaches du fils du sultan, on va pas tout raconter plutôt, et de pouvoir haïr à distance son père.
En fait, c'est un duel à distance, parce que le père, il ne le hait pas vraiment, parce que c'est un père. Mais il découpe la vie de ce père en deux tranches. Celui qu'il était avant la lapidation, et celui qu'il est devenu avec la lapidation, le moment où il parle de trahison.
Sayouba Traoré, j'aimerais justement que vous nous lisiez un extrait de votre roman. C'est au début, la lapidation a eu lieu, et il y a ce face-à-face entre le fils et le père.
Ben on va essayer. Omar est dans le hameau sans vivre avec le hameau. Il est un silence qui inquiète. Il est une absence qui interroge. On le regarde passer sans parvenir à détourner le regard. Son père ne sait pas faire avec ce garçon qui se tient loin de tout. Muré dans le verger familial, Omar n'a plus d'indulgence envers tout être doué de parole. L'eau dans les rigoles, les rochers, les plantes, les animaux, jusqu'aux vers de terre, voilà ses compagnons. Nul dans le village et les contrées voisines ne peut dire le contraire. Omar s'occupe bien des siens. La famille ne manque de rien. Mais c'est quoi ce garçon qui passe son temps au travail? Dort-il même? À quel moment le fait-il? Omar est devenu un paquet d'énigmes pour tous. Sa vie semble s'être éteinte le jour de la lapidation. Lui-même pense à cette matinée tragique en ces termes définitifs. Le jeune homme dit « le jour de ma mort ». Le jeune homme et son père ont échangé un regard chargé d'éclairs. Patiemment, longuement. Pour Omar, c'est le premier vrai combat de sa vie. Une joute sans pardon. Quelqu'un doit rester à terre. Et il n'est pas question que ce perdant ce soit lui. Il doit cette victoire à celle qui est partie. Un regard d'homme, ça dit beaucoup de choses, et ça cache beaucoup de choses. Là, il ne s'agit pas de haine. L'œil du jeune homme porte une question, et l'œil du père lui doit une réponse. Ce butin, Omar ne peut le céder à personne.
Sayouba Traoré, quelle est cette question que porte l'œil du jeune homme?
Mais il veut savoir, est-ce que sa mère est vraiment adultère? Est-ce que le père a inventé ça pour se débarrasser d'une femme dont il ne veut plus? C'est qui le coupable dans cette histoire? Qui est fautif? Qui a entraîné tout ce drame? Cette question, il lui faut la réponse. Et évidemment, le père ne peut pas lui donner cette réponse.
Donc il va se débrouiller.
Mais disons que les deux se débrouillent. Le père se débrouille parce qu'il ne veut pas rencontrer ce garçon qui échappe à son autorité d'abord de père, qui ne le conteste pas. Omar n'affronte pas son père, mais il l'évite.
Et il parle aux oiseaux.
Il est dans la nature, c'est quelqu'un c'est un amoureux de la nature. Bon, là, c'est un peu de moi, mais bon. C'est un amoureux de la nature. Il est au village. C'est comme dans l'extrait que je viens de lire, ses amis, c'est les plantes et tout.
Ce roman dont on ne racontera pas la fin, mais la société bouge.
Ben évidemment.
Elle ne peut que bouger.
Mais l'être humain, on commence par A, B, B, C, puis après on fait de la philosophie, et après on fait de la philosophie quantique, et ça continue. Et moi, je dis toujours que le savoir n'a pas de nationalité, la science n'a pas de nationalité, une invention n'a pas de nationalité, parce que entre humains, le savoir, c'est par capillarité que ça se propage. Moi, j'entends quelque chose dans une conversation et je veux savoir ce que c'est. Je vais interroger l'adulte qui sait. Que si lui ne sait pas, cherche celui qui sait. Et à mon tour, je donne quelque chose à celui qui est venu me voir. C'est comme ça que la société ne peut pas ne pas bouger. Et il y a cette mondialisation qui est venue tout bousculer. On parlait de nature tout à l'heure, mais il y a une autre mondialisation dont on ne parle pas. Mais les dérangements climatiques, ça frappe. Si vous allez dans les 15 pays du Sahel, ben on subit de la même façon, quelle que soit sa culture et quelle que soit sa religion. C'est une mondialisation dont personne ne parle en réalité, mais qui est là. Alors, on ne sait pas faire avec ce que la nature devient.
Mais c'est une maîtresse fidèle. Je vous ai entendu.
Donc
il faut y porter attention. Ce roman est donc une narration qui commence avec cette lapidation et qui va finalement vers du positif parce que Omar va faire son chemin et le monde va changer, va sortir de cette horreur. Il y a une dimension aussi philosophique et politique sur la nécessité de s'ouvrir au monde, je trouve, dans ce livre. Et il y a plusieurs phrases comme ça. On étouffe entre soi. Écrivez-vous, dit Omar, sur l'orgueil des hommes aussi, ces hommes qui prétendent dire les paysages, les temps et les raisons alors qu'ils n'ont parcouru que quelques centaines de kilomètres.
Mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Si vous regardez, à part nous qui faisons un métier que je qualifierais un métier de vagabond parce qu'on va pas partout... Vous prenez quelqu'un s'il va pas en vacances, et s'il va en vacances, il va dans un club de vacances, en fait, il dit qu'il connaît la ville, il connaît pas la ville. Quelqu'un qui vient à Paris en vacances, on lui fait voir la Tour Eiffel, le musée du Louvre, il connaît pas Paris. En réalité, nous ne connaissons pas la nature qui nous environne. Tout simplement parce qu'on a cette sensation, cette impression de savoir. Il y a une phrase qui résume bien ça. Et tout le monde sait ça. Et quand on gratte, on se rend compte qu'en fait, personne ne le sait.
Vous êtes devenu un sage, en plus d'être journaliste et écrivain.
Non, mais je pense que les voyages, l'observation, et puis quand même, je suis plutôt jeune, quoi.
Ça aide.
Oui, ça aide.
Merci beaucoup, Sayuba Traoré. La Complainte des oiseaux est publiée aux éditions Sidney Laurent. A noté aussi un recueil de nouvelles publié chez Plume Afrique et intitulé « Des jeunes filles amères ». De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, David Brocoué à la réalisation. Émission à réécouter sur RFI.fr et les réseaux sociaux.